Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci pour ce temps de louange, pour ce profond et où Dieu vient nous parler. Je vous vois à peine, donc je devine les visages derrière les masques. Donc, en effet, je m'appelle Marie-Hélène, j'habite à Mato, donc c'est tout près d'Or. Voilà, comme terre, un petit peu depuis là. Je vous présente juste un tout petit peu. Donc, en effet, je suis maman de 5 enfants. Je suis séparée depuis 2 ans et demi, de tous 3, dans des circonstances un peu compliquées. Voilà. Mais je suis vraiment passionnée par l'œuvre de Dieu, par son amour, par sa présence, par ce qu'il fait d'incroyable avec nous qui sommes de petits êtres humains, faits de poussière. Et comme il aime se révéler en fait, dans les choses les plus folles et les plus inattendues qu'on peut imaginer. J'avais juste une pensée en fait, pour nous ce matin. En fait, 2 pensées qui se rejoignent. Une des pensées, c'était Jésus, quand il est venu sur terre comme un petit bébé, il était accueilli en fait, juste dans une mangeoire pour animaux, dans un endroit sale, dans un endroit qu'on n'aurait jamais... Enfin, je ne sais pas, pour les parents, est-ce que vous mettriez votre bébé qui vient de naître dans un endroit pareil? Ouais. On n'imagine pas. Et en fait... C'était cette pensée de se dire, ben nous, des fois, dans notre vie, c'est un peu chaotique. Ben, on a des choses qui sont difficiles, aussi au tout milieu de ce Covid, de tout ce qui se passe. On peut se sentir un peu nul, un peu... Ben, qu'est-ce que Dieu il peut faire avec moi? Mais je crois que la pensée de Dieu, c'est vraiment de dire, mais je viens, si tu m'accueilles, dans ton chaos, je viens. Et j'ai pas peur de venir me frotter à toi, à ta mangeoire, et à là où tu en es. Puis une pensée qui va dans le même sens... C'était, quand, je ne sais pas si vous voyez Jacob dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il est sur une route, je n'ai pas relu exactement le passage, mais il s'endort. Il dort sur un chemin, il met sa tête sur une pierre. Et quand il dort, il a un rêve. Et dans ce rêve, il voit qu'il y a une échelle qui est là, et des anges qui montent et qui descendent. Et quand il se réveille, enfin, il est vraiment, il dit, mais j'ai peur. En fait, je ne savais pas que c'était un lieu où Dieu se tenait. Il appelait cet endroit Bethel. Et puis, j'avais cette pensée aussi que dans notre vie, des fois, on peut se sentir dur. On vit des circonstances qui ne sont pas faciles. On peut avoir la tête sur ce caillou, se dire, mais c'est vraiment pas confortable là où j'en suis. C'est pas facile. Ça rejoint l'idée de la mangeoire. Hein. Mais dans ces endroits terribles, il y a une échelle. Il y a une connexion avec le ciel. Et j'avais vraiment cette pensée pour vous, Église, qu'il y a une connexion avec le ciel et qu'il y a cette échelle qui est là au milieu de nous. Quand on se rassemble, hein, comme ce matin, et aussi chacun dans vos maisons, il y a cette échelle, cette liaison entre le ciel et la terre. Et cette échelle, ça signifie, il y a les anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire il y a vos prières, il y a ce qui monte, l'adoration qui monte jusqu'au trône de Dieu, mais il y a aussi quelque chose qui descend du ciel. Il y a sa provision, il y a son amour, il y a ce que lui, il a prévu pour chacun d'entre nous. Et il y a vraiment, en fait, une rencontre qu'il désire avoir avec nous. C'est comme si nos yeux, ils doivent être ouverts, parce que en fait, on peut se trouver sur un lieu saint, comme Jacob, et ne pas le savoir, parce que ça nous paraît tellement désolé et tellement pauvre. Et on a besoin, et je prie pour ça, que nos yeux s'ouvrent, qu'on puisse voir cette échelle, qu'on puisse voir ces anges qui montent et qui descendent dans ce lieu, et qui vient... Ben voilà, ce serait le cas d'en faire tout un message là-dessus, mais qui vient donner des promesses juste merveilleuses hein, à Jacob et à toute sa descendance. Donc voilà, je prie vraiment que nos yeux s'ouvrent et puis qu'on puisse réaliser toute la bonté, toute la générosité de Dieu. Donc voilà, le thème un peu de ce matin, donc c'était la culture de l'honneur. Donc c'est un vaste sujet hein, qu'on pourrait faire sur un mois, je pense, on parler tous les jours, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc je vais partager 2-3 choses, il y aurait sûrement plein d'autres choses à dire. En fait, on réalise dans notre société, et je pense que vous le voyez bien autour de nous, on est une société plutôt individualiste. Alors, c'est chacun pour soi, chacun qui pense à ses propres besoins, qui est tourné vers soi-même. Et c'est quelque chose qui est culturel. Chacun, on est dans une culture qui nous est propre. Par exemple, ben, on est né en Suisse, donc on est dans un pays d'Europe, on est né dans une famille protestante, évangélique, catholique ou athée. En fait, ça influence notre croyance, ça influence qui on est, comment on grandit. Si on est né en Afrique, par exemple, dans un petit village, on a une autre conception de la vie, on a une autre mentalité. Et en fait, on est imprégné de la culture dans laquelle on est né. Et cette culture, il y a des bonnes choses dedans, il y a des choses qui viennent de Dieu, mais il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et par exemple, l'individualisme, je trouve qu'il est très fort quand même en Suisse, et pas une culture qui vient du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Ouais. Oui.
Merci. Et puis, je pense que c'est important déjà de le réaliser, que parce que des fois, on a grandi dans des églises, même évangéliques, hein, qui ont des bonnes choses, mais qui ont certains aspects qui sont éloignés de la culture du ciel. Et quand on parle de la culture de l'honneur, c'est qu'on veut revenir à cette culture du ciel et du royaume de Dieu. Alors, je reprends un petit peu mes notes. Alors, quand je vous dis la culture du royaume de Dieu, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette culture du royaume de Dieu? J'attends que vous répondiez, si jamais. Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit?
L'amour.
L'amour.
Inconditionnel.
Pardon?
L'amour inconditionnel.
L'amour inconditionnel, oui.
Le partage.
Le partage.
L'amour pour son prochain.
L'amour pour son prochain.
Mm-hmm. Le pardon.
Le pardon, oui.
Les relations.
Les relations. Quel type de relations? Parce que des relations, dans le monde, il y en a aussi.
Le respect.
Le respect.
L'entraide.
L'entraide. Mm-hmm.
Le non-jugement.
Le non-jugement, oui. Donc ça, c'est tout excellent, hein. C'est vraiment quelque chose qui est de la culture du royaume de Dieu et qui va à l'encontre de la culture du monde et de la culture de notre société. Quand on parle de la culture de l'honneur, il y a le mot honneur dedans. Puis honorer, ça veut dire estimer le meilleur de l'autre. Ça veut dire, il y a une autre façon de le traduire. Quand je suis allée plusieurs fois donc, aux États-Unis à Bethel, dans cette église, ils disent de voir l'or et non la poussière chez les gens. Donc d'estimer le meilleur. Et c'est pas toujours facile. Suivant avec qui, c'est très simple de voir le meilleur. Puis quand il y a des relations qui sont plus compliquées, c'est pas évident. Et on peut facilement être attiré par la poussière, par ce qui est sale, et ne plus voir l'or. Mais la culture de l'honneur, et ce que Dieu nous invite à vivre, c'est de voir en fait l'or chez les gens. La culture de l'honneur, ce n'est pas un truc qui est à la mode. On en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui est vieux de 2000 ans. Que Jésus, donc il en a parlé, mais il a surtout démontré en fait, à travers qui il est, à travers son ministère, à travers sa façon de parler avec les gens. Quand on pense à la femme adultère, donc qui a été placée devant Jésus, et puis ils étaient prêts à la lapider, hein, la tuer avec des pierres, Jésus, il a dit que celui qui a péché lui jette la première pierre. Il n'a pas cautionné le péché, il n'a pas dit c'est pas grave hein, ce que tu as fait, mais il a relevé la femme et il a fermé la bouche à ses détracteurs. En fait, dans tout son ministère, puis quand on regarde encore avec quand il est au puits avec la femme samaritaine, Jésus, il ne la condamne pas, pourtant cette femme. Pour ceux qui ne voient pas trop de quoi je parle, c'est une femme qui avait eu 5 maris, qui avait une vie débauchée, qui venait exprès au milieu de la journée au puits en se disant « je vais voir personne ». Et Jésus, il parle avec elle. C'était déjà incroyable, parce que Jésus ne parlait, enfin les Juifs ne parlaient pas déjà aux Samaritains, et encore moins à une femme. Donc doublement, il l'a honorée, il a pris du temps avec elle, et il ne l'a pas jugée, en fait il l'a juste posé des questions. Et je crois que c'est une des clés aussi dans la culture de l'honneur, quand on est en relation avec les gens, de poser des questions, de s'intéresser vraiment à l'autre, et d'écouter. Et je pense que ça, on a tous à apprendre. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on pose une question, on écoute d'une oreille, puis on est déjà en train de réfléchir qu'est-ce que je vais dire après. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écoute pas du tout. Donc je pense que c'est un travail qu'on a tous à faire, hein, d'écouter vraiment l'autre. Une phrase qui définit bien la façon de faire de Jésus, c'est servir sans infériorité et diriger sans supériorité. Elle vient pas de moi cette phrase, je sais plus où je l'ai retrouvée, mais je crois qu'elle était pas mal. Servir sans infériorité et diriger sans supériorité. Je pense qu'on a tous à grandir là-dedans. Jésus, c'est l'exemple du serviteur parfait, hein, qui l'a fait sans infériorité. Il s'est pas mis plus bas que terre en disant « je suis nul, je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis bon qu'être votre serviteur ». Non, il a servi, il a nettoyé les pieds de ses disciples, il a donné à manger, mais il l'a fait tout en étant lui-même, sans se mettre plus bas que terre. Il a dirigé sans supériorité, sans écraser les autres. Et je crois vraiment que c'est un exemple, un modèle à suivre. Hein. De toute façon, Jésus, c'est notre modèle par excellence. On a, enfin voilà, que de belles choses à faire en le suivant. Dans l'honneur aussi, quelque chose d'important, ça vient de... Il y a les Juvets qui ont écrit un livre sur la culture de l'honneur. Et ils disent dans leur livre, « Dans l'honneur, on célèbre la tentative, le geste, le courage, indépendamment du résultat. » Donc, peu importe si ça réussit, mais on célèbre l'effort en fait, qui est fourni. Et ça, c'est vraiment à l'encontre de notre société, du monde du travail, qui est tellement basé sur l'efficacité, sur le rendement. Mais dans le royaume, ça ne fonctionne pas comme ça. On va célébrer, on va honorer la personne qui essaye, qui donne tout ce qu'il peut. Et c'est ce que je dis aussi à mes enfants, des fois où c'est pas facile à l'école. Je dis, moi, c'est pas grave si t'as pas des bonnes notes. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu donnes le meilleur. Que tu fasses tout ce que tu peux, et après, ça t'appartient pas. Mais l'important, et je crois vraiment que c'est comme ça que Dieu nous voit, c'est de faire le meilleur, avec qui on est, avec ce qu'on peut. Et puis, c'est ça qui l'honore, en fait. Pas forcément le résultat. Il y a un verset qui se trouve dans Romains 12, 10. Donc je le dis avec une version que je trouve sympa. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Je le relis. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Être plein de tendresse. Je trouve que c'est hyper beau. J'aime bien ce mot, tendresse. D'être plein de tendresse les uns pour les autres, d'être bienveillants les uns avec les autres. Et comment est-ce que je peux faire pour honorer les autres? J'ai un peu réfléchi et je me disais, ben, une façon de se dire comment je peux honorer, c'est de me dire comment moi j'aimerais être honorée. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi pour m'honorer? Et puis de se dire, ben, je vais le faire pour les autres. Puis un petit exemple, un peu de saison concret. En plus, je l'ai vécu il y a 3 ans, je pense maintenant, une amie, elle m'a fait une surprise pour le temps de l'Avent. Elle m'a préparé tout un calendrier de l'Avent qu'elle est venue poser en cachette dans ma chambre. Et avec chaque jour, des belles surprises. Puis ça m'a tellement, plus je vivais une période difficile, tellement fortifiée, tellement bénie, avec des versets, avec des choses à proclamer, que là, cette année, j'ai décidé de le faire pour mes voisines. Donc de faire pour chacune un calendrier de l'Avent avec des surprises, avec des cadeaux, des choses comme ça. Et je l'ai fait aussi avec ma collègue pour mon patron. Et, il était tellement touché. Quoi. Il dit, ah, est-ce que je peux vous faire un câlin? Ah, mais j'ai jamais reçu de calendrier de l'Avent. Chaque jour, il nous envoie une petite photo du cadeau. Et je me dis, waouh, c'est tout simple. Ça demande un petit peu de créativité, un peu d'idées. Mais ça peut être 1000 autres choses. Mais de se dire, mais comment est-ce que je peux témoigner de l'honneur pour les gens qui sont autour de moi? Comment je peux montrer de l'amour pour eux de façon abordable, en fait, pour qu'ils puissent le recevoir. Je pense qu'on a beaucoup, en fait, à grandir avec ça. Et puis d'utiliser vraiment les dons, en fait, que Dieu nous donne. Chacun a des dons particuliers, chacun a des capacités particulières, et on peut utiliser ces choses, en fait, pour montrer notre amour aux autres, pour les honorer. Une autre chose, enfin, un petit témoignage personnel. Moi, j'aime bien, on peut dire ça. Tout ce qui est prophétique, tout ce qui touche à l'écoute de Dieu et de pouvoir le dire autour de moi. Et puis je savais que, en fait, mes enfants ils sont dans une école chrétienne, une école privée, qui vit beaucoup de difficultés depuis le début de l'année. Il y a eu des maîtresses qui sont en arrêt maladie pour plusieurs mois, avec tous ces trucs du Covid, des parents qui ne sont pas contents des règles que l'école est obligée de mettre. Enfin, beaucoup de choses difficiles. Je me disais, mais comment, en fait, je pourrais bénir le directeur, l'équipe qui passe du temps en fait, pour réfléchir et tout ça. Et puis, en priant simplement dans la voiture, il m'est venu une pensée, en fait, et j'ai pu simplement mettre un message, dire, ben, voilà ce que je crois recevoir de Dieu pour vous, pour vous encourager, en tout cas, merci pour ce que vous faites. Puis j'ai dit, voilà la pensée que j'avais. Et puis, il a vraiment, enfin, été très touché, il a dit, ben, je reçois vraiment très, très peu souvent des messages comme ça. Et, enfin, voilà, je crois vraiment qu'on est appelé avec les dons qu'on a, avec ce que Dieu a mis sur notre cœur, pouvoir bénir les autres. Et je crois que la prophétie est vraiment quelque chose qui est fait pour l'édification, pour construire, pour faire du bien autour de nous. Donc, n'ayons pas peur de l'utiliser et puis de faire du bien. Alors, pour changer de culture, hein, pour revenir à cette culture de l'honneur, il faut être intentionnel. Ça ne va pas se faire tout seul. Il ne faut pas juste se dire... un jour, ah ben voilà, maintenant je suis dans la culture de l'honneur, et voilà. Pour créer une nouvelle mentalité, ça demande des efforts, ça ne nous tombe pas dessus. C'est pas naturel d'honorer. C'est pas quelque chose qui nous vient à la naissance. C'est plutôt le contraire, hein. On est plutôt égoïste à penser à soi. Donc il y a vraiment besoin d'être intentionnel pour pouvoir le vivre. Peut-être aussi on peut se dire, mais comment est-ce que je me suis sentie quand moi j'ai été honorée ? Je ne sais pas si vous pouvez prendre quelques secondes juste de se dire, la dernière fois, je ne sais pas, ça peut être par votre conjoint, par vos enfants, par votre patron, un collègue, quelqu'un à l'église, la dernière fois que vous avez été honorée, ça peut être de dire, ah, mais c'est super le travail que tu fais, je suis vraiment fière de toi, ou ça peut être les enfants qui disent, oh, t'es une super maman, un super papa. Ou je sais pas, essayez de vous rappeler un petit peu une phrase ou quelque chose qui vous a vraiment honoré. Comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment-là ? Qu'est-ce que ça a produit en vous ? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre ? Pardon ?
La joie.
La joie, oui.
La reconnaissance.
La reconnaissance. Mm-hmm.
Le sentiment de valeur.
Sentiment de valeur, oui. Ouais. L'envie de faire bien, non, l'envie de... Je trouve que ça provoque quelque chose. On se dit, ben, je vais continuer comme ça, je vais donner le meilleur. Donc ça produit des bons fruits, ça nous valorise, ça nous construit. Je me suis aussi posé la question, est-ce que honorer veut dire tout accepter ? Non, hein. Je pense qu'on a déjà la réponse, hein. Mais souvent dans nos églises, on a dit, ben, comment, ouais, comme si on pouvait attendre l'autre jour, ce qui est juste, hein, comment expliquer ça, mais, en fait, honorer l'autre, c'est pas non plus l'accepter et puis tout accepter, puis se laisser marcher dessus, et puis dire, tant pis, quoi. Ne change pas, reste comme tu es. Honorer, c'est aussi mettre des limites. Et quand on voit Jésus, par exemple, quand il parle avec le jeune homme riche, le jeune homme, il veut le suivre, puis Jésus lui dit, mais vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ce jeune homme, il s'en va tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens matériels, il n'était pas prêt à tout lâcher pour Jésus. Jésus, il n'a pas diminué ses exigences pour le jeune homme. Pourtant, il l'aimait. C'est lui qui l'aime, et il était vraiment triste que ce jeune homme ne laisse pas tous ses biens. Jésus l'a laissé libre de sa responsabilité. Et je pense qu'on doit aussi apprendre à laisser l'autre libre, à dire, ben, c'est, pour ton bien, c'est comme ça, mais si tu ne veux pas, je ne vais pas te forcer. Tu es libre. Laisser l'autre libre de ses choix et libre d'en assumer les conséquences. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre. C'est qu'on a chacun en fait notre part à faire. Nous, on a notre part, par exemple, de dire à l'autre, écoute, ton comportement, ou il y a quelque chose qui ne joue pas là-dedans, qui honore pas Dieu. On peut le dire, mais on ne peut pas forcer l'autre à changer. Jésus, c'est lui qui est le sauveur. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est le sauveur. La place, elle est déjà prise. Et puis, quand on est dans l'église, il y a ce côté où on a envie de sauver les gens. On a envie d'aider, on a envie de prier, on a envie de porter, on a envie de tout changer. Il y a un côté qui est juste, mais il y a un côté où ça peut aller à l'extrême et on ne laisse plus Jésus être le sauveur. On ne laisse plus la place à Jésus de faire son œuvre dans le cœur des gens. Je pense que c'est important, quand on parle de culture de l'honneur aussi, de se dire, en fait, c'est honorer les gens, de se dire, mais t'es assez grand pour prendre ta responsabilité. T'es assez grand pour prendre tes propres décisions. Et si tu te trompes, ce sera pas, c'est pas ma faute. Je suis pas responsable de tes choix. Et puis vraiment, je crois que ça laisse la place aussi à Jésus pour œuvrer, pour agir dans la vie des personnes. Et c'est important, en fait, dans ce processus-là, d'être vraiment à l'écoute de Dieu et d'aller là où il nous demande. Des fois, ça peut être hein, d'aller porter quelqu'un, de prier, de rester à ses côtés pendant longtemps, longtemps, longtemps. Mais quand il nous dit stop, c'est plus le moment de vraiment s'arrêter et de le laisser lui à l'œuvre. Peut-être je raconte juste un petit témoignage. C'est un équipier Sozo qui est dans une de nos équipes où il a vécu un temps difficile où ses adolescentes, il a 4 ou 5 enfants, où ses adolescentes commençaient à mal tourner, puis à prendre de l'alcool, de la drogue, et plus vouloir aller à l'église et tout ça. Puis, plus il s'acharnait, plus c'était pire. Juste à ce que Jésus me dit, mais tu m'as pas donné tes filles. Il a dit, ok. Alors il a lâché, il a vraiment dit, maintenant je te les donne, je te laisse faire, je ne leur dis plus rien, c'est toi qui t'en occupes. Et ça a été douloureux, ça a été dans les larmes. Et quelques temps plus tard, je ne sais plus combien de temps ça a duré, sa fille, elle vient en pleurs vers lui, elle sort de la douche. Puis il dit, mais papa, papa, mais Dieu, il m'a parlé sous la douche. Il faut vraiment que je change de vie, ça ne va pas, est-ce que tu peux prier avec moi? En fait, il a commencé à avoir comme un réveil parmi ses enfants, où ils ont commencé à faire un groupe de prière ensemble, à se retrouver, et puis à faire tout ce processus-là. Et je me disais, waouh, quel témoignage, hein, de se dire, quand on laisse Jésus faire, c'est glorieux, c'est lui qui s'en occupe. Donc c'est vraiment un encouragement à laisser prendre la place. J'avance, j'ai encore pas mal de trucs à dire, le temps file. Aussi, ce n'est pas parce que j'honore quelqu'un que cette personne me doit quelque chose. Hein, c'est pas parce que par exemple, c'est pas parce que j'invite des gens à manger qu'ils doivent à leur tour m'inviter à manger. Ou c'est pas parce que j'offre un cadeau que les gens doivent m'offrir un cadeau. On n'est pas dans le donnant-donnant avec la culture de l'honneur. On le donne simplement pour le plaisir de donner. Et Dieu, il nous rend d'une autre façon. Et même si c'est dans l'éternité, c'est dans l'éternité et c'est glorieux. Et je crois qu'il faut qu'on se détache de cette idée bien suisse, quand même. J'invite, donc tu dois m'inviter, si tu ne le fais pas, alors je suis vraiment fâchée. Ce genre de choses-là. Hein. On donne par générosité et il y a encore plus de bonheur à donner quand ce n'est pas donné en retour, hein, la Bible nous le dit. C'est juste, je dois être jusqu'à 10h30. Mais...
Ouais, t'as encore le temps. Hein.
Je vais essayer de faire vite, vite la fin. Pour changer un comportement, il faut commencer quelque part. Ça ne se change pas tout seul. Et puis, une des choses, en fait, qui est dans la Bible et qu'on voit souvent, c'est qu'il faut commencer par les pensées. Si on ne change pas nos pensées, on ne peut pas changer un comportement. Le changement, il vient toujours de l'intérieur et il coule vers l'extérieur. Dans Philippiens 4:8, il est dit « Voici ce qui doit vous intéresser. » Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Donc c'est tout un programme. Hein, Philippiens 4:8, je vous laisserai le relire peut-être à la maison. Je vais juste dire quelques mots là-dessus. Donc tout ce qui est vrai, c'est dit, hein, ce qui doit nous intéresser, ce qui doit préoccuper nos pensées, c'est tout ce qui est vrai, tout ce qui est véridique. Donc, ce n'est pas des oui-dire. Ce n'est pas des critiques qui doivent occuper nos pensées. Ce n'est pas « Ah, un tel a dit que… » nanana. Ça, non, ça ne va pas prendre place dans nos pensées. Comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un, quand on entend une critique? Quelque chose de très efficace, c'est d'envoyer la personne directement vers la personne concernée. De dire « Mais ça ne m'intéresse pas. Va plutôt en parler avec la personne qui est concernée. » Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire, donc je n'ai pas envie même de le savoir. Ça ne me concerne pas. Hein, tout ce qui est aussi respectable dans nos pensées, est-ce qu'on pourrait dire nos pensées tout haut, ou les écrire sur un mur à la vue de tous? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur, aimable, approuvable, très bon? Est-ce que ça mérite des félicitations? C'est tout un programme, je pense qu'on est tous en chemin. Hein. Je ne dis pas que je, enfin voilà, mais je pense qu'en fait, j'avais une fois cette explication de nos pensées, c'est comme un aéroport où il y a des avions qui viennent se poser. Donc on a des pensées qui peuvent venir sur notre aéroport, notre tête, et on a le choix, nous on est le contrôleur. Et on peut dire oui ou non aux pensées qui viennent. On n'est pas esclave de nos pensées, on est le maître de nos pensées. Donc on peut dire non, je ne veux pas de cet avion-là. Non, je ne veux pas de cette pensée qui rabaisse l'autre. Non, je ne veux pas de cette pensée qui dit que je suis une victime. C'est nous qui sommes maîtres de nos pensées. Donc se nourrir vraiment des pensées du ciel, voir au-delà des comportements qui nous heurtent dans l'église ou autour de nous, au travail, et de voir vraiment la pensée de Dieu. S'il y a tel comportement, telle chose qui me fait du mal, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Est-ce qu'en moi, il y a des blessures que tu veux guérir? Ou est-ce que cette personne, Jésus, tu la vois comment? En fait, ça change quand on voit le regard des gens, le regard de Dieu sur les gens et la pensée de Dieu, ça change vraiment notre regard sur eux. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une église qui a des pensées comme on a lu plus haut, les uns pour les autres, hein, des pensées qui sont vraies, des pensées qui sont pures, des pensées qui sont admirables, qui sont approuvables, qui sont très bonnes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette église? Une église qui cherche toujours l'intérêt de l'autre. Moi, le mot qui me venait, c'est que c'est une église qui est puissante. Une église où l'ennemi n'a pas de point d'accroche pour faire du mal. Parce que les choses sont réglées au fur et à mesure. Et il n'y a pas de ressentiment et de choses comme ça qui peuvent naître. Bon, je ne vais pas pouvoir tout dire. Je vais arriver à la fin. Je pense vraiment, pour un changement de pensée, pour un changement de mentalité, un changement de culture, il faut une rencontre avec Dieu. Il faut une rencontre avec Dieu, un cœur à cœur avec lui. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça, mais quand on le voit face à face, quand on est face à lui, on n'est plus le même, on est transformé à son image. Quand on lit sa parole, quand on est plongé dans son regard, on n'est plus les mêmes, on est vraiment transformé. Bon, je crois que je suis obligée. Je vous lis encore un passage, je sais que ça fait court le temps, mais... En fait, j'ai vraiment été interpellée par ce passage de 1 Jean 1 qui dit « Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux, nous l'avons regardée avec attention, nous l'avons touchée de nos mains. » Et quand on parle de la parole, c'est Jésus. Hein. Jean nous parle de la parole comme étant Jésus. Est-ce que Jésus, on l'a entendu? Est-ce qu'on l'a vu de nos yeux? Est-ce qu'on l'a regardé avec attention? Est-ce qu'on l'a touché de nos mains? Et je crois vraiment qu'on est invité à avoir cette rencontre avec Jésus. Et quand on lit tout 1 Jean, en fait, ça montre vraiment que quand il y a cette rencontre avec Jésus, l'Église est unie, en fait. On s'aime les uns les autres, il n'y a pas de place pour le malin. On est dans la lumière. Et je crois que c'est vraiment une invitation que j'ai envie de vous dire ce matin, que pour être dans cette culture de l'honneur, pour pouvoir nous honorer les uns les autres, pour pouvoir honorer Dieu, en fait, ça commence par cette rencontre avec Jésus, avec cette rencontre avec la parole, avec cette rencontre avec la source de la vie. Et quand on a dans ce cœur avec lui, quand on est face à sa lumière, il nous transforme, il transforme nos pensées, et par nos pensées, ça change nos comportements. Je vais juste prier encore pour terminer ce moment. Jésus, je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que tu es celui qui sait le mieux comment nous parler, comment parler à nos cœurs, et tu es l'exemple parfait de celui qui honore. Et Dieu le Père aussi, quand tu as même parlé du ciel pour honorer ton Fils et dire celui-ci, et mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et tu nous enseignes, tu nous apprends à faire la même chose. Et je te prie qu'on puisse grandir dans cette culture de l'honneur, et moi la première, pouvoir voir l'or chez les gens, de pouvoir édifier, pouvoir construire dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Et je te prie vraiment de bénir chacun qui est là, d'éclairer nos yeux sur nos pensées qui ont besoin d'être alignées avec ta pensée, tout ce qui est pensée égoïste, tout ce qui est pensée
qui ne sont pas comme j'ai lu avant, qui ne sont pas respectueuses, qui sont pleines de critiques ou pleines de dévalorisation. Tu viens faire de l'ordre ce matin dans nos pensées et tu mets ta pensée à toi, Jésus. Ta pensée à toi. Et c'est, je crois vraiment, Jésus, que tu viens nous bouleverser, que tu viens nous aimer, c'est alors qu'on peut aimer les autres. C'est alors qu'on peut honorer, c'est alors qu'on peut servir autour de nous avec un bon cœur. J'avais juste encore une pensée avant, pendant la louange, qu'il y a quelqu'un parmi nous, je voyais un pied avec l'orteil qui avait l'os qui ressortait. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Que c'était une personne qui souffrait en tout cas d'un orteil. Je sais pas si ça concerne quelqu'un. Oui. Je sais pas comment vous faites d'habitude, mais. Est-ce que. Vous pouvez venir devant, vous êtes d'accord?